Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors de notre précédent épisode, nous avons en quelque sorte planté le décor, Braila, ces rues bouillonnantes, les Tziganes, les Roumains, tous ces gens qui se voient le jour, qui se séparent la nuit, le Danube qui sépare vos deux familles, et votre grand-père paternel avec qui vous vivez et qui a laissé ancrer en vous l'image du Shabbat.
Oui. Mais le Shabbat était une journée à la fois très occupée et très différente. On quittait le monde, ce monde-ci. C'était occupé parce que c'était le jour de... On s'habillait, on se lavait. C'était très important à ce moment-là. Ça prenait beaucoup de temps. On se préparait pour le soir, enfin le soir, la réunion, ce qu'on appelle la veille du Shabbat, et qui avait un sens sacré d'ailleurs. Et puis on allait à la synagogue pour prier. Alors les enfants, ils ne priaient pas, bien sûr, ils restaient pendant quelques instants à l'intérieur, et après on allait jouer ensemble et finalement se vautrer dans la poussière, parce qu'il y a quelque chose qui est important dans mon souvenir de cette enfance, c'est la poussière partout. Et non, le jour le plus solennel était le Shabbat lui-même, et je l'ai ressenti par exemple lorsque je suis allé à Jérusalem. C'est une sorte de qualité de relation des gens, une qualité du silence, une qualité de la parole. Et la chose qui m'a marqué, qui m'a laissé un souvenir comme ça un peu mystérieux, et que j'ai retrouvé par la suite, c'était ce troisième repas du Shabbat. En général, les gens partaient vers la fin de la journée, mais les hassidim se réunissaient et restaient avec le rabbin en groupe. Et en fait, je crois que tout le rituel, c'était un rituel, on parlait, on mangeait, etc. Tout le rituel avait pour but de sortir de la fête sans tristesse.
Vous avez mis longtemps à comprendre le sens de ce troisième repas.
Oui, parce que je ne savais pas pourquoi. Et puis quelqu'un m'a expliqué ensuite que c'est le troisième repas du samedi soir avait une signification mystique pour les hassidim. Mais moi, je crois aussi que dans la mesure où le hassidisme a été un mouvement religieux qui voulait introduire la joie dans la religion, dans la vie quotidienne, et en même temps plus de contact entre les sages et les croyants, permettait aussi de sortir justement avec la joie du Shabbat, tandis que les autres sortaient avec une certaine tristesse.
Est-ce qu'on peut dire que la communauté juive roumaine de l'époque était une communauté importante, influente? Est-ce qu'elle avait un rôle social?
Elle était importante, hein, puisqu'il y avait, je ne sais pas, 500 ou 600 000 juifs. Elle était en Roumanie depuis très longtemps, depuis les Romains, selon certains. De toute façon, depuis le 15e siècle, parce qu'il y a eu aussi une grande immigration séfarade à la suite de l'expulsion de l'Espagne. Et donc, elle était importante. Était-elle influente? En partie, mais elle était aussi une communauté qui était exclue, parce qu'en fait, il n'y en avait aucun de droit de citoyenneté jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y avait les persécutions, je dirais, hélas, ordinaires. Et pogroms et une communauté dont les gens, que les gens ont quitté à différents moments de difficultés, de panique. Je ne sais pas si vous le savez, mais les deux premières communautés à faire leur alia, à partir en Israël, ont été la communauté roumaine et la communauté russe. Et c'est en même temps les deux premières communautés qui ont connu une grande émigration vers les États-Unis. Les gens sont partis, ont quitté la Roumanie à la fin du 19e siècle à pied. C'est ce qu'on appelait les Fussgänger. Ils sont partis vers l'Amérique.
Alors, on va revenir à votre histoire plus personnelle. Donc, 1930, vos parents divorcent, votre destin prend une première voie, il prend un premier chemin, celle de la séparation avec votre mère et votre sœur. Et en fait, certains se souviennent de relations matriarcales où il n'y a que des femmes. Vous, c'est un peu l'inverse, il y a beaucoup d'hommes. Vous êtes élevé par des hommes, en fait.
Oui. Surtout par mon père, qui les femmes rentrent en tant que déléguées de mon père. Donc mon père part en Bessarabie. La Bessarabie est une région qui actuellement encore fait partie de l'ancienne Russie, enfin de l'ancien. Et donc la Bessarabie, qui est une province assez très riche du point de vue agricole. Et nous allons vivre dans une petite ville qui s'appelle Kahoul, où il a commencé à se faire sa propre vie. Je pense qu'en même temps, mon père a commencé à faire sa propre vie. Il s'est installé là-bas. Il est devenu un membre assez respecté de cette communauté. Et donc, moi, j'y arrive, et quand j'y arrive, il y avait déjà cette vie qui s'est installée là-bas. Il avait une gouvernante, et la gouvernante, à ce moment-là, c'était pas quelqu'un qui s'occupait des enfants, c'était quelqu'un qui s'occupait de la maison et s'occupait de lui. Et c'est à ce moment-là aussi que je commence l'école. Et l'école, je ne sais pas comment c'était dans d'autres régions de la Roumanie, mais il y avait beaucoup d'écoles juives. Les juifs ont beaucoup suivi un enseignement assez séparé, surtout quand ils appartenaient à la classe pauvre ou la classe moyenne. Les riches, c'était très différent. Et donc je suis entré dans ce qu'on appelait le Tarbout, qui était une école, ce qui était une sorte d'organisation, une chaîne d'écoles hébraïques.
Alors avant de rentrer avec vous dans cette école, une balade probablement qu'ont suivi bien des écoliers, celle qui longe le beau Danube bleu.
Thank you.
Donc Serge Moscovici, l'école où vous êtes inscrit à Cagoule est une école hébraïque parce que donc vous faites partie de cette communauté un peu pauvre et que généralement eh bien l'école hébraïque accueille cette...
Ah non, j'ai dit pauvre et l'école, la classe moyenne. Enfin, je veux dire, il fallait être très riche pour sortir de ce circuit, à mon avis. Et là, je commence à la fois une vie, si vous voulez, sur le plan familial bancal. La mère est absente, et je ne savais pas exactement pourquoi, parce que à cette époque-là, les parents s'occupaient ni de la psychologie des enfants, ni de l'expliquer ce qui se passe. Et en même temps, la vie entre soi d'une petite communauté juive, assez isolée d'une certaine manière.
Mais comment est-ce que votre arrivée est prise par justement la population, ce petit garçon comme ça qui vient ? Est-ce que c'est un plus ou un moins pour votre père ?
Pour mon père, c'est un plus, parce qu'au moins il avait, vous savez, un célibataire ou un homme seul n'est jamais bien vu, même pas aujourd'hui, mais dans le temps c'était vraiment quelque chose de rédhibitoire, donc il avait au moins une certaine existence sociale, donc le fils était assez important pour y être. Je dois d'abord dire que ce qui est important, c'est que c'est vraiment le moment où j'ai la sensation de la terre. C'est quelque chose qui m'est resté toujours, la sensation de la terre, la sensation de des champs de blé, la sensation de l'odeur, si vous voulez, l'odeur du blé, l'odeur de la vie animale, c'est quelque chose qui m'est toujours resté, et aussi celle de l'eau, parce que c'est une région entre deux fleuves, hein, et les transports de blé se faisaient par des péniches tirées, hein, par des bœufs ou par des chevaux. Donc c'est pour moi une sorte d'entrée dans la vie, je veux dire, organique. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Et de nouveau.
Et aussi une certaine déréalité, parce que j'étais un étranger, finalement, dans cette communauté établie depuis très longtemps. En Bessarabie, il y avait une communauté juive assez importante. Je pense que 30% de la population y était, et qui vivait de la terre. Il y avait même des agriculteurs, mais aussi déraciné dans un autre sens, parce que, ou enraciné, ça dépend des mots, parce que l'entrée dans l'école me transporte dans le monde de la Bible, parce que j'ai appris à lire et à écrire, et surtout à écrire l'hébreu avant d'apprendre à lire et écrire le roumain. Et en fait, c'est une expérience que je n'ai... En fait, jamais bien comprise. Je suis curieux d'ailleurs. Parfois, j'y réfléchis. J'ai appris deux langues qui s'écrivent dans des sens opposés. Vous voyez, deux mondes organisés différemment. Et donc, si vous voulez, j'ai appris à vivre entre soi, puisque à l'intérieur de cette communauté qui était non pas fermée, mais elle était quand même séparée. Et aussi à vivre de manière étrange, parce que vivre dans une famille où il n'y a pas de mère, où il y a une gouvernante, est quand même une manière de vie étrange.
Vous parlez assez peu de vos amis, de vos copains. Est-ce que vous en avez ?
À ce moment-là ?
Bien sûr.
Oui, j'en avais beaucoup. J'en parle de ce silo de blé où mon père avait un silo de blé. Et là, je les entraînais, je les amenais jouer. Mais effectivement, c'est très difficile de se faire des amis si on n'a pas une famille complète dans une petite communauté. Oui, dire. Parce qu'on est toujours un peu en marge, c'est toujours quelque chose d'asymétrique. Ou alors, il rentre toujours une partie de pitié, si vous voulez, dans les rapports avec les autres. Bien sûr, le fait de... Je l'écris quelque part, les enfants sont très cruels. Je pense que les enfants sont par nature racistes. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas le tableau complet, si quelqu'un n'est pas comme il faut, il est immédiatement exclu.
Alors, dans cette bande de copains que vous avez, il y en a quand même deux qui sortent un peu du lot. C'est David et Itzik.
Oui. Ben, c'est très curieux parce que ces deux garçons m'enviaient de ne pas avoir une famille complète. Et m'enviaient aussi du fait que... Mon père ne me battait pas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Dans un monde où il y avait une sorte de violence par rapport aux enfants, j'étais quelqu'un de relativement protégé parce que mon père était assez maladroit. Il ne savait pas quoi faire avec moi, donc il n'utilisait pas, non plus de violence par rapport à moi. Et ensuite, comme je n'avais pas une ribambelle de sœurs, de frères, de mères, etc., donc je vivais pour ces garçons. J'étais quelqu'un qui était libre. Et donc, je pense que ça, c'était une sorte de début, une des raisons de leur attirance. Mais en même temps, je ne sais pas. Je pense que m'étant fait des amitiés très longues et très durables pendant toute ma vie, d'autres choses probablement, notre commune rêverie, parce qu'on passait beaucoup de temps. Je parlais de la poussière. Vous savez, quand je pense à mon enfance, je pense à la poussière et la neige, hein, parce qu'il faisait très, très froid. Et donc, avec ces deux enfants, on rêvait beaucoup autour de la Bible parce qu'on n'avait pas d'autres sources d'histoire. Je dis, je n'ai pas lu de livres, si vous voulez, d'enfants. On n'avait pas les histoires, la Grimm, rien d'autre que ces histoires bibliques qui constituaient la trame de nos errances.
D'enfance encore, les fêtes de Pâques avec sa batterie de préparatifs.
Oui. Oui, la fête de Pâques est pour moi la fête, la seule fête qui m'a marqué. D'abord, elle durait très longtemps, la préparation de Pâques. Ça durait pendant 2-3 semaines parce qu'il fallait d'abord pratiquement tout nettoyer, toute la maison était nettoyée, tout changé. On changeait les draps, la vaisselle. Et ensuite, on faisait cette chasse au pain. En même temps qu'on cachait du pain pour chercher le pain. Et donc... Et puis il y avait toute une sorte d'animation, c'était le printemps qui arrivait, c'était la chaleur après un hiver extrêmement rude. On aurait dit qu'il y avait une sorte de renaissance de la vie. Et donc c'était cette harmonie qui s'établissait entre le changement de la nature et cette fête très importante, mais qui est en même temps la fête du fils, c'est la fête de l'enfant, c'est la fête parce qu'après tout, c'est lui qui pose les questions.
C'est vous qui les posiez d'ailleurs.
Donc c'est moi qui les posais les questions et donc qui devient un sort de centre du rituel. Et on assistait en même temps à cette concentration puisque il y avait plusieurs familles qui se réunissaient pour le rituel de Pâques. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais très tôt, le texte même de la Haggadah s'est inscrit dans mon esprit.
Lors de notre prochain épisode, nous reviendrons sur la Roumanie d'alors, nous reviendrons sur les relations entre juifs et roumains, sur l'antisémitisme et sur et de cagoule, eh bien nous partirons car vous n'arrêtez pas de déménager.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.